Le 10 octobre 1964. Depuis quelques mois, Mère avait souvent fait remarquer qu'elle ne voyait plus et qu'elle écrivait ses lettres sans voir. Une fois même, elle avait dit « Je suis aveugle ».
Si je pouvais lire moi-même, je le ferais très facilement.
Non, non, je vais le faire doucement.
Seulement, je...
Oui, oui, je vais le faire. Je vais le faire.
Ça, c'est encore... C'est encore quelque chose qui est bizarre. Tout d'un coup, sans aucune raison extérieure apparente, et même sans aucune raison psychologique apparente, je vois clair, précis. Ça dure quelques secondes. Et puis, c'est fini. Et puis, et dans des circonstances tout à fait différentes, et je ramasse un papier. Je vois clair comme je voyais avant. Je m'aperçois que je vois clair. C'est fini. Ça arrive, ces temps derniers, c'est arrivé un petit peu plus souvent. Il y a des moments, au contraire, où j'essaye. Par exemple, il n'y a personne pour me lire quelque chose, je voudrais lire. Impossible. Et plus j'essaie généralement, plus ça s'en va dans le nuage. À un autre moment, je veux voir quelque chose, une certaine volonté. Je le vois très clairement. Alors ça, n'est-ce pas, c'est l'apparente incohérence. Ça doit dépendre d'une autre loi que pour le moment je ne connais pas et qui gouverne le physique. Par exemple, depuis quelque temps, assez longtemps, je lis la nuit et je vois très clair. N'est-ce pas, quand je m'éveille, je suis en train de lire quelque chose que je tiens dans la main et je vois très clair. Par conséquent, ce n'est pas l'état physique qui influe sur la condition de la nuit, c'est autre chose. Pendant très longtemps, je voyais des images, des scènes, je voyais, je n'entendais pas. Et puis tout d'un coup, j'ai commencé à entendre. Et alors j'ai entendu, le moindre bruit, enfin d'une façon tout à fait cohérente et naturelle, j'entendais. C'était comme si le sens s'était soudain développé. Eh bien, il y a un certain état de vision qui fait que je lis des choses écrites que maintenant que je ne lis plus physiquement, je lis la nuit. C'est-à-dire que tout ce développement intérieur du physique et du physique subtil, c'est encore tout un monde inconnu qui est à apprendre. Je ne connais pas ces lois, je suis seulement un spectateur. Et ça obéit à une volonté d'un ordre tout à fait différent que la volonté qui s'exerce dans le monde physique. Tout à fait. Mais tu comprends, si on est sur un chemin comme ça, ça peut durer 100 ans et davantage. On est là à tout apprendre, n'est-ce pas? On ne sait rien.
Moi, je sais pas, je garde cette impression très fort que ça, je ne sais, j'ai pas l'impression que ça dépende de tout un travail de détail sur tel point, tel point,
non,
tel point.
Non.
Qu'en fait, qu'il y a un jour, quelque chose se produira.
Ah, c'est ça. Oui. Il y a des indications qui viennent comme ça pour vous dire, ça sera comme ça. Et puis voilà. Et puis ça s'en va. Et puis quand ça sera comme ça, ça sera
oui.
comme ça. Oui. Tu as raison. Tu as raison, c'est correct. Que de fois, n'est-ce pas, ça vient comme un... Ça se gonfle comme une marée, tu sais, une vague qui monte. Cette aspiration de tout l'être matériel, toutes les cellules et tout ça, comme ça, vers le suprême, que tout dépend de toi. Tout dépend de toi, mais quand on le dit, ça diminue. C'est l'impression d'une impuissance totale et d'une incapacité totale qui peut être en une seconde transformée en une sagesse totale par une intervention. Et c'est les cellules qui sortent. La pensée a dit, oh mon Dieu, la terre est pleine de toutes les... Quand on voit ça dans l'ensemble, c'est vraiment intéressant. La terre est pleine de toutes les imaginations humaines qui ont été changées en constatations. Mais les plus fantastiques, les plus contradictoires, les plus inattendus, c'est plein de tout ça, ça vide, ça grouille de ça. Et le résultat, c'est que le monde matériel est convaincu que de lui-même, il ne peut rien. Rien que ça. Ce fouillis inextricable et qui se paraît insensé et qui n'est rien, qui est une imagination dévergondée en comparaison avec ce qui peut être. Et alors cette foi, c'est une foi de la matière. Dans un éclair, nous ne savons pas le temps, n'est-ce pas? C'est pas une question de temps comme nous le comprenons matériellement, mais un déclic. Tout ça peut être ça. Le rythme harmonieux d'une volonté qui s'exprime. Et une volonté qui est une vision, d'une vision qui s'exprime. C'est vraiment ça. Le rythme harmonieux d'une vision qui s'exprime. Et tout ce que nous pouvons en penser, en imaginer, en déduire, tout ça, c'est rien. C'est rien. Ça ne conduit pas là. Ce qui conduit là, c'est cette certitude, cette foi intérieure que ça, là, la suprême, quoi, comme je dis, que ce soit vérité, amour, sagesse, connaissance, tout ça, ce n'est rien, ce sont des mots. ce quelque chose, quand ça s'exprimera, tout ira. Et tout de suite. C'est incohérence. Incohérence mensongère. Et alors, ce qui est curieux, c'est qu'il y a aussi une certitude que cette conviction, cette certitude, qui est s'exprime forcément dans des actions tout à fait différentes suivant les gens. Que c'est la même chose qui prend des colorations différentes dans l'aspiration de conscience différente. C'est en dernier, j'ai eu comme une exposition ou un défilé de toutes les théories possibles de l'humanité pour expliquer la création, le monde, la vie, l'existence, tout ça, c'est venu comme ça, toutes ces choses, l'une après l'autre, depuis celle qui semblait la plus primitive, la plus ignorante, jusqu'à la plus scientifique. Et elles étaient toutes sur le même plan d'incompréhension, mais toutes avec le même droit d'exprimer l'aspiration vraie qui était derrière. Et ça, c'était miraculeux. Que même la foi du sauvage, les religions les plus primitives et les convictions les plus ignorantes avaient derrière elles le même droit d'exprimer cette aspiration. Ça c'était merveilleux. Et alors, le sentiment de la supériorité de l'intelligence s'est tombé tout à fait, tout de suite. C'était la même chose que justement ce que l'on appelle maintenant les oppositions, les contradictions violentes et vulgaires du progrès intellectuel, surtout scientifique, de l'espèce humaine, et comme un contraste, les stupidités qui paraissent imbéciles de ceux qui réagissent contre les conventions, Eh bien, n'est-ce pas, cette impression d'infériorité et de supériorité que l'on a parmi les êtres soi-disant raisonnables, tout ça, ça disparaissait immédiatement. Dans une perception d'ensemble qui faisait que tout était le résultat de la même pression vers le progrès. C'est comme une pression qui se fait sur la matière pour en faire sortir la réponse, et quelque forme que prenne cette réponse, ça fait partie de l'action générale. Il y a, depuis la dernière fois, ce qui s'est produit, c'est que ce sentiment d'une libération, n'est-ce pas, d'une libération de l'étouffement et d'une sorte d'ouverture et du bien-être qui en dépend, ça s'est installé. Et alors la compréhension, comme la compréhension d'un témoin détaché, la compréhension que toutes ces difficultés qui viennent et qui s'accumulent sont absolument indispensables pour que rien ne soit oublié dans la marche en avant, pour que tout aille ensemble, et que c'est seulement la vision de détail qui oblitère la vision de l'ensemble. Voilà. Ce sera comme l'œuf, le poussin qui surgit de l'œuf, tout d'un coup. Tant qu'il est dedans, il n'y a pas de poussin pour la vision superficielle. Et puis tout d'un coup, pof!
À la fin de cette conversation, Mère parle de la santé du disciple qui a été souffrant.
Cette semaine qui vient est une semaine difficile. Mais enfin, je te vois le 14,
oui,
et puis le 17. Maintenant, la dernière étape, c'est que le corps oublie qu'il a été malade. C'est très important.
Très difficile.
C'est très important.
Mais moi personnellement, je suis constamment à... J'ai beaucoup de mal avec ce mental physique. Beaucoup de mal. Il a des craintes, des peurs, des... Terribles.
Oh, absolument.
Il a reçu tellement de coups que...
Oui, c'est ça.
il vit dans une anxiété qui abîme tout.
Oui.
Qu'est-ce qu'on peut faire?
Il faut vous persister, c'est ce que je dis. Moi, n'est-ce pas, c'est comme ça. Tu comprends? C'était assez intéressant. Parce que, dès ma toute petite enfance, j'avais la conscience supérieure et un ahurissement véritable devant l'état de la terre et des hommes. Tout petit. Tout le temps, j'étais dans l'étonnement ahuri. Et alors, j'ai reçu de ces coups, n'est-ce pas, constants. Chaque chose me venait comme un coup de poignard, ou un coup de poing, ou un coup de massue. Et on me disait comment, n'est-ce pas, toutes les bassesses, tous les mensonges, toutes les hypocrisies, tout ce qui est tordu, tout ce qui déforme et défait le passage de la force. Tout ça, tu comprends? Et dans mes parents, dans toutes les circonstances, dans les amis, dans tout, comme ça. Ça ne se traduisait pas intellectuellement, ça se traduisait comme ça. Et toute petite, il y avait déjà la force là, n'est-ce pas? J'ai un souvenir clair à partir de 5 ans. Il suffisait que je m'asseigne un moment pour que je sente ça, cette force qui venait. Et j'ai traversé toute la vie jusqu'à l'âge de 20 ans ou 21 ans où j'ai commencé à rencontrer la connaissance, quelqu'un qui m'a expliqué ce que c'était. Comme ça. Comment c'est ça la vie? Comment c'est ça les gens? Comment c'est? Et j'étais comme si j'étais moulu de courant. C'est alors le. À partir de entre 20 et 25 ans a commencé cette habitude du pessimisme. Ça a pris tout ce temps-là, tous ces coups, au point de vue de la santé, quand il y avait une maladie, ce n'était jamais pour moi une maladie, c'était encore une partie des coups, mais une assurance complète que ça n'avait pas de réalité. Et très jeune, vers peut-être 13 ou 14 ans, chaque fois qu'il y avait un coup, je disais à mon corps, je me disais, mais à quoi ça sert d'être malade puisque tu dois guérir? Et ça, c'est resté jusqu'à plus de 30 ans. À quoi ça te sert d'être malade, puisque tu dois guérir? Et ça s'est atténué seulement petit à petit avec ce pessimisme croissant. Maintenant, il faut que je défasse tout ce travail. Mais toi, c'est la même chose. Parce que tu étais déjà conscient quand tu étais petit, sans en être conscient. Et quand il t'est arrivé toutes ces choses terribles, n'est-ce pas, il y avait quelque chose qui était resté conscient. Mais ça a cultivé ce pessimisme. Ce pessimisme du mental physique. Et maintenant, il faut défaire tout ce travail. Et c'est un travail où... Il m'était impossible de croire, de comprendre même tous ces mouvements depuis la trahison, la jalousie, tous les mouvements, n'est-ce pas, de négation du divin dans l'être humain et dans les choses. C'était impossible, je ne comprenais pas. Seulement ça venait comme ça, et puis comme ça, et puis comme ça, voilà. Et alors, il fallait de faire tout ça. Et pour toi, c'est la même chose. Ça a été la même chose. Je sais très bien. Je sais très bien. Et ça a pris des formes brutales pour toi. Mais il n'y a qu'à, n'est-ce pas, il n'y a qu'à tenir bon, c'est tout. Il n'y a qu'à, il faut enlever l'empreinte, petit à petit. Et le seul moyen d'enlever l'empreinte, justement, c'est de mettre en contact avec la vérité. Il n'y a pas d'autre moyen, tout le raisonnement, toute l'intelligence, toute la compréhension, tout ça, ça sert à rien du tout. C'est seulement mettre et établir le contact. Justement, ce que ces cellules apprécient, la possibilité d'établir le contact. Établir le contact. Le point de vue matériel, le japa est très bon pour ça. Quand on a la tête fatiguée et que on est un peu lassé de contredire tout le temps, ce pessimisme, il n'y a qu'à répétition de fait. Et on établit le contact. Automatiquement, établir le contact. Et ça, ça, les cellules apprécient beaucoup. C'est un très bon moyen parce que c'est un moyen qui n'est pas mental. C'est un moyen mécanique qui n'est pas mental. C'est très bon. C'est question de vibration. Voilà mon petit sel. Faut durer.